Et Bruno Duvic nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour, et non, c'est Frédéric Barrère. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Le règne de la peur et des menaces d'attentats en Afghanistan. Les Occidentaux appellent leurs ressortissants à s'éloigner au plus vite de l'aéroport de Kaboul. Selon Washington, Londres et Canberra, il y a un risque d'attentat du groupe État islamique. Dans le même temps, pour ceux qui veulent fuir, l'angoissant compte à rebours touche à sa fin pour les évacuations. Le témoignage et le désespoir d'une femme afghane en début de journal. Tout le monde en classe jeudi prochain pour la rentrée scolaire. Jean-Michel Blanquer reste sur le cap fixé depuis le début de la crise sanitaire avec une école ouverte, une rentrée scolaire presque normale. La primaire éventuelle à droite, Éric Ciotti officialise sa candidature dans le même temps. François Baroin s'éloigne encore un peu plus de la vie politique. Il a choisi son successeur à la présidence de l'Association des maires de France. David Isnard, le maire de Cannes, une candidature qui ne plaît pas à tout le monde. Dans ce journal également, Alexei Navalny, l'opposant russe, dénonce ses conditions de détention, une pollution au nitrate très inquiétante en Espagne, et puis deux médailles françaises supplémentaires ce matin aux Jeux paralympiques de Tokyo, l'or pour Alexandre Léauté en cyclisme poursuite individuelle et l'argent pour Axel Bourlon en haltérophilie. La météo pour cet après-midi, des nuages au nord, du soleil au sud. Élodie Calac à la fin de ce journal.
France Inter.
Une terrible course contre la montre en Afghanistan pour ceux qui veulent partir. L'opération française d'évacuation prendra fin demain soir, annonce ce matin le Premier ministre Jean Castex. L'Afghanistan, où selon de plus en plus de témoignages, le pays est devenu le règne de la peur, notamment pour les femmes qui ont tout à perdre sous le règne des talibans. Désormais dans le pays, elles rasent les murs, sortent le moins possible. Burqa obligatoire, école, université fermée. Je vous propose d'écouter le témoignage de Shaila Beshisti au travers de ce reportage de Vincent Souriau, l'envoyé spécial de RFI à Kaboul. Shaila Beshisti a 22 ans et on ne mesure pas les risques qu'elle a pris tout à l'heure en confiant sa colère, sa rage, son impuissance en parlant.
Elle se terre quelque part dans Kaboul, dans une petite maison avec un poulailler. Aujourd'hui, c'est chez sa tante, mais elle change de domicile tous les deux jours, terrifiée par son CV de militante des droits de l'homme.
Ce sont des extrémistes, c'est tout. Je ne peux pas continuer. On les connaît, vous savez, ils ont déjà été au pouvoir. On sait de quoi ils sont capables. On a tous quelqu'un dans notre famille qui est passé par là. C'est le règne de la peur.
Avant la chute de Kaboul, elle tenait un petit magasin de fleurs. Elle n'y a pas mis les pieds depuis 10 jours, trop dangereux. Maintenant, il n'y a pas 36 solutions. Il faut se cacher ou partir. C'est aussi simple que ça.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Un jour, je vais réussir à voyager et je vais y arriver, je vais poursuivre mon destin. Le combat pour les femmes, les enfants. Je vous promets que moi aussi, je vais parler aux Nations Unies comme Malala et Angelina Jolie.
Elle nous donne rendez-vous dans 10 ans à la tribune de l'ONU. D'ici là, la démocratie, dit-elle, aura repris le dessus en Afghanistan. Vincent Souriau, Kaboul RFI.
D'autres témoignages à retrouver sur notre site. L'insoutenable désespoir des Afghans à l'approche de la fin des évacuations sur franceinter.fr. L'Afghanistan sous le règne des talibans et sous la menace du groupe État islamique. Une alerte très élevée d'attentats terroristes est lancée cette nuit à la fois par les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne. Les trois pays demandent à leurs ressortissants de ne pas se rendre à l'aéroport de Kaboul. Londres estime qu'il y a un risque d'attentat imminent contre l'aéroport de la part de l'État islamique. Des milliers d'Afghans attendent toujours de fuir et ils sont aussi à l'aéroport. Quelles sont les relations entre les talibans et l'État islamique et quelles menaces représente le groupe État islamique en Afghanistan, le groupe djihadiste État islamique sous le nom d'ISK. KP, État islamique dans la province du Khorasan, a revendiqué certaines des attaques les plus meurtrières commises ces dernières années, Eric Bigala.
L'État islamique dans la province du Khorasan a été fondé début 2015 par d'anciens talibans, afghans et surtout pakistanais, et rallié au calife autoproclamé de l'État islamique de l'époque, Abu Bakr al-Baghdadi. Au moment de sa pleine puissance, c'est-à-dire vers 2016, l'État islamique au Khorasan disposait de 7 à 8 000 combattants. Plusieurs centaines de djihadistes arabes, mais aussi européens, sont venus grossir les rangs du groupe après la chute du calife en Irak et Syrie. Mais les opérations de contre-guérilla en Afghanistan l'ont sérieusement affaibli. Nombre de ses cadres, y compris les fondateurs, ont été tués ou arrêtés et des début 2020, il ne comptait plus que 2000 combattants concentrés dans les provinces est du pays. Mais ça n'a pas empêché le groupe de monter plusieurs attaques meurtrières, notamment contre la minorité chiite Hazara. En juin, il tuait ainsi 8 travailleurs Hazara, employés par une ONG pour le déminage. En mai, il s'attaquait à une école Hazara dans le centre de Kaboul, faisant une centaine de victimes. L'actuel émir de l'État islamique au Khorasan, Shabab al-Mujahir, serait un expert des attaques en milieu urbain. Il dispose certainement de cellules dormantes à Kaboul même, tout à fait capable de monter une opération visant l'aéroport.
Éric Biégala, merci. En France, l'actualité ce matin, c'est la rentrée scolaire. Et c'est un moment toujours très attendu par les 12 millions d'élèves et leurs parents. Comment va se dérouler cette rentrée jeudi prochain, encore plus en période de crise sanitaire? Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a donc présenté ce matin les conditions de retour en classe. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Une rentrée de niveau 2, cela veut dire presque normal.
Oui, niveau 2 sur une échelle de 4, cela signifie un accueil de tous les élèves en même temps, le masque en intérieur et dans les cours de récré uniquement dans les départements où il est obligatoire à l'extérieur pour la population générale. Les cours de PS peuvent avoir lieu en intérieur sauf pour les sports de contact. Et puis respect des gestes barrières bien sûr, aération, désinfection des locaux. Ce niveau 2 qui est déjà appliqué à La Réunion où la rentrée a eu lieu le 17 août pourrait évoluer si nécessaire localement, a bien précisé Jean-Michel Blanquer.
Il peut y avoir dans le futur, même si nous ne le souhaitons pas, une aggravation de ce niveau, soit à l'échelle globale de la métropole, soit dans tel ou tel territoire en fonction de la situation. Et vous voyez, la rentrée a commencé à l'île de la Réunion. Elle nous dit quelque chose parce que la situation épidémique est assez comparable. Il y a 0,2% des classes fermées. C'est le chiffre que nous avions l'année dernière, pratiquement tout au long de l'année, qui nous a permis de maintenir l'essentiel des écoles ouvertes, parce que nous savons fermer de manière précise quand il y a un problème.
Et puis, Sonia, autre annonce concernant la revalorisation du salaire des enseignants qui continue.
Il y a déjà eu une prime d'attractivité pour les débuts de carrière en mai dernier. Elle est élargie et va concerner 57% des enseignants, jusqu'à l'échelon 9 pour être très précise, qui correspond à 16 ans de carrière. Cette prime sera versée à partir de février 2022. Un jeune professeur qui, par exemple, gagnait 1700 euros net par mois l'an dernier, touchera en 2022 1869 euros, un gain de 169 euros, dégressif selon l'ancienneté et qui va jusqu'à 29 euros par mois en plus pour les milieux de carrière. Ces augmentations concerneront aussi les contractuels. Le ministre voudrait qu'un professeur ne gagne pas moins de 2000 euros par mois, mais il faudra pour cela poursuivre cette politique lors du prochain quinquennat.
Sonia Princé, merci. Et puis concernant la vaccination, avec une forte incitation à partir de la rentrée, tous les collégiens et les lycéens de plus de 12 ans auront une proposition vaccinale, soit dans les établissements scolaires eux-mêmes ou dans des centres à proximité. Et puis le Premier ministre, Jean Castex, a de son côté annoncé ce matin que la troisième dose de vaccin sera proposée dans les EHPAD à partir du 12 septembre prochain dans ces établissements. C'est un soulagement, les professionnels sont prêts. Le docteur Stéphane Meyer, vice-président de l'Association nationale des médecins coordonnateurs et du secteur médico-social, interrogé par Marion Ferrer.
Dans les établissements, en particulier dans les EHPAD, nous étions en attente de cette troisième dose, dans la mesure où nous avons bien conscience que l'immunité de nos résidents est fragile et que les premiers vaccinés datent de fin janvier, début février, et que nous avons vraisemblablement besoin d'une réinduction de leur immunité qui parfois est un peu faible. Donc nous attendions avec impatience cette troisième dose. La majorité des résidents sont d'accord, la majorité des familles ou des référents sont d'accord pour cette vaccination. Moi, par exemple, sur un établissement, j'ai dépassé 99% de personnes vaccinées. Et je dois reconnaître qu'il y a eu véritablement un gros travail qui a été fait pour que nous puissions obtenir des doses en quantité suffisante.
Et puis concernant les plus de 65 ans maintenant, ou les personnes souffrant de comorbidité, Jean Castex a également rappelé que, comme l'a recommandé la Haute Autorité de Santé, ces personnes pourront également prendre rendez-vous pour une troisième dose dès le début du mois de septembre. Et à une semaine de la rentrée, on voit beaucoup d'adolescents dans les centres de vaccination contre le coronavirus. Ils viennent en famille se faire vacciner, parents et enfants. C'est le cas au Kindarena de Rouen, où hier, la moyenne d'âge n'était pas très élevé. Charlotte Coutard, France Bleu Normandie.
Toute la famille a reçu la première dose, les parents et les deux enfants. Mohamed, 17 ans, habite à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Parce que c'est important, parce que quand on voit les chiffres des morts causés au Covid, on se dit que c'est grave. Non, c'est pour la sécurité, avant tout.
La sécurité, car son père, Oumad, a eu le Covid en novembre dernier. Il a été hospitalisé en réanimation.
Presque 2 mois à l'hôpital, et je sais ce que c'est, pour éviter un deuxième drame, comme on dit, se préserver d'avance. Et voilà, nous on fait confiance à la médecine.
Bonjour, je vous emmène avec moi.
Dans un mois, à partir du 30 septembre, le pass sanitaire sera obligatoire pour les 12-17 ans dans les lieux sportifs et de loisirs en intérieur. C'est ce qui a décidé Maëlys, 13 ans, elle fait de la natation.
C'est surtout pour continuer les activités et puis pour pouvoir aller n'importe où tranquillement. Pouvoir aller à la piscine, comme ça je suis tranquille, je ne veux pas me faire vacciner à l'école.
Elle est venue de Malonnet avec son papa Frédéric.
Les enfants sont moins atteints, donc c'est vrai qu'on n'avait pas non plus peur spécialement pour eux. On n'était pas pressé forcément de vacciner les enfants. Le but, c'est de sortir de tout ça de façon.
Selon l'Agence régionale de santé de Normandie, plus d'un ado sur deux, 56% des Normands de 12 à 17 ans, ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.
L'Association des maires de France aura donc un nouveau président. Il sera élu lors du prochain congrès en novembre. François Baroin ne veut plus être président de l'AMF, mais il a choisi à qui il souhaite passer le relais, au maire, les Républicains de Cannes, David Lisnard, qui n'apparaît pas comme le candidat le plus consensuel. Et pour François Baroin, cela ressemble à la fin d'une carrière politique. En tout cas, Élodie Forêt, il s'éloigne encore un peu plus de la vie politique française.
Oui, François Baroin sort peu à peu des radars. Lui qu'on a longtemps pressenti pour être le champion de la droite en 2022, s'est clairement retiré de la course avant l'été. Et il lâche donc désormais les rênes de l'Association des maires de France, l'une des associations d'élus les plus influentes. Il est temps, selon lui, nous dit son entourage, de laisser la place à une nouvelle génération. François Baroin, qui vous l'avez dit, s'est choisi un dauphin, le maire de Cannes et ex-filloniste David Lisnard. Il l'a annoncé officiellement hier lors d'une réunion houleuse avec les maires de droite et du centre du bureau de l'AMF. Un participant nous raconte, ça n'a pas été un moment de franche camaraderie. Plusieurs maires reprochent à Baroin le fait du prince d'avoir désigné son successeur sans concertation. David Lisnard apparaît aussi comme trop clivant au sein d'une association qui se veut modérée. Conséquence, l'émergence d'autres candidatures, celle du maire de Sceaux UDI Philippe Laurent. Le maire de Poissy Carl Olive, proche d'Emmanuel Macron, est aussi intéressé. Le début d'un feuilleton politique avec comme échéance le 16 novembre, date de l'élection.
Et David Lisnard qui envisage également d'être candidat à la primaire de la droite si elle a lieu. À droite, la photo des candidats à une éventuelle primaire gagne en clarté après Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, a officialisé sa candidature ce matin. La primaire à droite, quel candidat déclaré ou en instance? Le point à droite à retrouver sur notre site franceinter.fr.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
À l'étranger, l'opposant russe Alexei Navalny, en prison depuis janvier dernier, dénonce ses conditions de détention. Dans un entretien au New York Times, il parle de violence psychologique et il compare ses conditions d'emprisonnement à un camp de travail chinois. Richard Place.
Contraint de regarder la télévision d'État 8 heures par jour, des films de propagande à la chaîne, assis sur une chaise. Alexei Navalny raconte sa vie de prisonnier comme un grand lavage de cerveau. Le détenu le plus célèbre de Russie décrit une prison loin des goulags d'antan. Pas de travaux pénibles dans des conditions abominables, non. Vous devez imaginer quelque chose comme un camp de travail chinois, explique-t-il, où tout le monde marche en ligne et des caméras sont fixées partout. L'un des rares plaisirs de Navalny, faire parfois la cuisine avec d'autres détenus. Il pense alors à la scène du film Les Affranchis où les mafieux derrière les barreaux préparent de savoureux plats de pâtes, mais il précise qu'ils n'ont ni les mêmes ingrédients, ni les ustensiles, juste un micro-ondes. Cet entretien montre un Navalny combatif, absolument pas résigné, remis de son empoisonnement et pouvant passer des nuits correctes depuis que les gardiens ont cessé de le réveiller toutes les heures. Un traitement de faveur qui lui était réservé pendant les premières semaines d'incarcération pour s'assurer qu'il ne préparait pas une évasion.
Un tout autre sujet en Espagne maintenant, avec une pollution
très inquiétante en mer mineure, une pollution aux nitrates. Plus de 5 tonnes de poissons morts ont été ramassées ces derniers jours. L'ancien paradis touristique du sud-est du pays est en train de mourir, Célia Kiré, privé d'oxygène par des nitrates agricoles.
Oui, les images ont été diffusées par les médias espagnols. Des milliers de poissons morts ou à l'agonie, flottant la tête hors de l'eau. Ces poissons ont été ramassés ces 10 derniers jours avec des épuisettes placées dans de grands paniers noirs sur le sable au bord de cette mer mineure. L'odeur est très forte, d'après les personnes interrogées sur place, qui ne peuvent plus se baigner dans cette lagune depuis plusieurs années. Les poissons sont morts par manque d'oxygène. Or, cette pollution est due aux nitrates utilisés dans l'agriculture intensive. Les algues prolifèrent en effet à la surface de l'eau grâce à ces fertilisants. Une couche verte ou marron se forme et elle empêche la lumière de passer. Cela tue la végétation du fond de la lagune. Or, cette pollution crée des tensions au niveau politique en Espagne entre le gouvernement régional de droite et la ministre de la Transition écologique espagnole socialiste, qui dénonce des pratiques agricoles illégales. Pour les scientifiques, il n'y a pas de doute, c'est bien une pollution agricole et la chaleur renforce ce phénomène. Selon le Fonds mondial pour la nature, le WWF, il s'agit de la plus grave mortalité de faune de l'histoire connue de la mer mineure et elle n'est pas terminée.
Célia Kiré, merci. Comment rapprocher les entreprises des jeunes diplômés ou non et qui ne parviennent pas à s'insérer sur le marché du travail? Une association, la Ligue des Jeunes Talents, basée en banlieue parisienne, organise des bootcamps, des camps d'entraînement pour trouver un emploi. Pour les jeunes, après plusieurs mois de candidatures infructueuses, il est souvent difficile de garder confiance en soi et de ne pas se décourager. La Ligue des Jeunes Talents propose un programme mêlant activités sportives et ateliers de développement personnel auquel participent 30 jeunes gens âgés de 18 à 31 ans. Louise Aura s'est rendue à Saint-Gratien dans le Val d'Oise.
Au programme ce matin, escrime et séances de préparation mentale. Céline, 22 ans, s'offre une petite pause entre deux duels d'épée.
Le sport, ça aide à rester dynamique, à ne pas se laisser aller. Et c'est vrai que ça travaille beaucoup les notions de patience, de travail en équipe.
Les participants ont des profils variés, titulaires d'un master ou d'un CAP. Ils sont aussi nombreux à chercher une alternance comme Pedro. Il a fait faillite récemment après avoir monté seul son entreprise.
J'avais débuté, j'avais pas d'expérience. Donc j'aimerais avoir une entreprise qui pourra m'épauler et qui pourra me montrer la voie.
En plus des activités sportives, des rencontres avec des entreprises sont organisées. Un face-à-face qui fait du bien à Anissa. Elle envoie depuis des mois des CV et perd confiance.
Pour ma part, la première matinée, elle a été un petit peu spéciale. Une personne vraiment formidable en face de moi et j'avais la sensation pour la première fois de ma vie d'être réellement écoutée dans mon projet professionnel. Donc voilà, j'ai lâché toute ma sensibilité le premier jour et ça allait beaucoup mieux après.
Moi, je m'appelle Soumaya, je suis coprésidente de la Ligue des Jeunes Talents. Ce qu'on essaie, nous, de mettre en avant, c'est vraiment le relationnel, donc de rapprocher ces entreprises des jeunes. Aujourd'hui, comme vous le savez, tout passe par des plateformes, donc il y a une pile de CV, on n'arrive pas forcément à choisir le bon profil.
Ces bootcamps sont un vrai coup de pouce. Trois mois après le dernier en date, 85% des participants ont trouvé un emploi.
Première Marseillaise et donc première médaille d'or aux Jeux Paralympiques de Tokyo ce matin. Le héros est le cycliste Alexandre Léauté, 20 ans, qui s'impose en poursuite individuelle sur 3000 mètres, catégorie C2. Le jeune breton, hémiplégique de naissance, bat également son propre record du monde en 3 minutes et 31 secondes, Guillaume Batin.
The national anthem of France.
Minasama.
Beaucoup d'émotions sur le visage d'Alexandre Léauté, 20 ans, hémiplégique, mais acharné de travail et passionné, particulièrement précoce dans son sport. Il est déjà 5 fois champion du monde sur route et sur piste. En qualification et en finale, aujourd'hui, il a écrasé la concurrence en battant 2 fois les 2 records du monde et paralympiques.
On n'est jamais sûr, c'est une finale, tout peut arriver. J'avais un très très gros adversaire en face de moi. Voilà, faut jamais, on part jamais vainqueur, mais j'avais une grosse grosse détermination. Et au bout de 1500 mètres, c'était qu'au mental. Et je pense que si j'avais pas eu tous ces encouragements, je pense que j'aurais. Voilà, c'est grâce à eux si j'ai pu me surpasser aujourd'hui. Bah, je voulais remercier tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je peux pas avoir tous les messages, mais je fais de mon mieux pour. Je les vois tous, soyez-en sûrs, je les vois tous. Donc voilà, tous ceux qui m'apportent de la force, du soutien, je vous remercie parce que vous me permettez d'aller plus loin dans l'effort et voilà, c'est grâce à vous que j'en suis là aussi aujourd'hui.
C'est la première médaille d'or pour les Bleus ici à Tokyo, mais peut-être pas la dernière pour Alexandre Léauté, que l'on reverra demain dans l'épreuve du kilomètre.
Alexandre Léauté en or, Axel Bourlon en argent, en haltérophilie, en para développé couché des moins de 54 kilos. C'est donc la 4e médaille française aux Jeux Paralympiques de Tokyo. La météo pour cet après-midi.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Et le temps change dans le Nord.
Oui, les nuages se sont invités. Alors entre le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, l'Île-de-France, le nord de l'Alsace, de petites éclaircies vont quand même tenter leur chance cet après-midi. Un petit peu plus belle au nord de la Seine en fin de journée. En revanche, du nord de la Bretagne vers le sud de l'Alsace, là ce sont bien les nuages qui dominent avec une petite averse possible plutôt vers l'est. Partout ailleurs, c'est très ensoleillé. Quelques nuages sur l'est des Pyrénées et la montagne Corse, mais rien de bien méchant. Et puis en Méditerranée, il faut à nouveau composer avec le vent jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Les températures, elles baissent un peu sous les nuages. Ça reste estival dans le sud. Seulement 19 degrés à Dieppe ou à Caen, 22 à Paris, 23 degrés à Rennes et à Mulhouse, 26 pour Nantes, pour Lyon, 29 en allant du côté de Nice, 31 à Toulouse et 32 à Nîmes. Et puis demain, on aura des nuages entre le nord et le nord-est, surtout le matin, du soleil au sud et du vent assez fort en Méditerranée.
Élodie Calac de Météo France.